Le 3 décembre, l'Église célèbre un saint basque, saint François Xavier. À cette occasion, nous vous proposons d'entendre une conférence de l'évêque émérite du diocèse de Bayonne-Escaret-Oloron, Mgr Pierre Moller. Conférence donnée en 2006 à l'occasion du 5e centenaire de la naissance de saint François Xavier, 1506-1552. Mgr Pierre Moller a publié en 2014 aux éditions Parole et Silence un livre intitulé « Saint François Xavier ». Saint François Xavier, apôtre et missionnaire, voici la conférence de Mgr Pierre Moller.
Chers amis auditeurs, je désirerais vous parler de François Xavier, Saint François Xavier, le grand apôtre missionnaire. Pourquoi ? Parce que cette année, nous allons fêter le 500e anniversaire de sa naissance. Et comme ses ancêtres étaient originaires de mon diocèse, d'un petit village de Jacsu, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, et de la région à côté, basque espagnole, de la vallée du Bastane, nous en avons fait une année missionnaire avec l'esprit de saint François Xavier. Mais comme François Xavier n'est pas qu'un Navarrais, il est aussi un saint de l'Église universelle, j'ai pensé que vous présenter cet homme, sa doctrine et surtout ses convictions et son apostolat serait utile pour vous. Conquistador pour le Christ jusqu'au bout du monde, ainsi vécut François Xavier, né le 7 avril 1506 au château de Rabière, en Navarre, de fière allure, avec ses trois tours, ses créneaux, son fossé, son pont-levis. Au-dessus de la porte d'entrée, le blason soutenu par deux anges, des aspilcueta, sur lequel figurait une pièce de monnaie et un croissant de lune. À droite, dans le couloir d'entrée, accueillant les visiteurs, un beau Christ, alliant à la douleur de la crucifixion, la sérénité de la résurrection. Chaque jour, l'enfant récitera le chapelet devant lui. Par son père François remonté aux Etcheberria, qui au XIVe siècle vivait à Jacsu, village proche de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son père, Jean de Jacsu, docteur en droit de l'Université de Bologne, maître des finances et président du premier tribunal du royaume, Alcade Mayor, devint par sa compétence et sa réputation de sagesse le conseiller préféré des souverains de Navarre. De son mariage avec Marie de Aspilcueta de la vallée du Bastan, noble famille bien avant le temps de Charlemagne, il eut six enfants, trois filles et trois garçons, dont le dernier François, de vive intelligence. Retenu à Pampelune par son emploi et les besoins de la cour, Jean de Jacsu appelait souvent ses enfants auprès de lui, leur rendait visite et de temps en temps séjournait auprès d'eux. Doña Maria, son épouse, et sa sœur célibataire les élevaient de leur mieux. Dans ce climat d'union et d'harmonie surgit un événement inattendu. Le 24 juillet 1512, à la tête de 15 000 hommes et d'une forte artillerie, le duc d'Albe arrivait à l'improviste sous les murs de Pampelune et s'emparait de la ville au nom du roi Ferdinand de Castille. Le roi de Navarre, Jean d'Albret, dut fuir en vitesse, vite rejoint par son conseiller Jean de Jacsu, qui, après un certain temps, revint assumer son emploi et rassurer sa famille. Le 15 juin 1515, Ferdinand réunit définitivement la Navarre à la Castille, et le 16 octobre de la même année, Jean de Jacsu, tombé en disgrâce, mourut. Vaillamment, son épouse Doña Maria fit face, réduisit le train de vie familial et fit appel à son cousin Martin d'Aspilcueta, qui vint se fixer au château. C'était un homme au grand cœur qui avait donné tous ses enfants à Dieu. Le cardinal de Cisneros, ministre du roi Ferdinand de Castille, fit démanteler le château de Rabière en démolissant le mur d'enceinte à créneaux, les trois tours, les escaliers de pierre de l'intérieur et les escaliers extérieurs menant au chemin de ronde. Doña Maria réclama en vain une indemnité. Après la mort, le 23 janvier 1516, du roi Ferdinand de Castille, un soulèvement de l'est du pays se fit contre son fils et successeur. Charles fut contraint de leur opposer ses meilleures troupes occupées à Pampelune. Du coup, les d'Albret, alliés aux Français, profitèrent de l'aubaine. En mai 1521, les Français assiégèrent Saint-Jean-Pied-de-Port avec une telle furie que la ville s'était bientôt rendue à Miséricorde. Le 21 mai, les Castillans, enfermés dans la citadelle de Pampelune, se rendirent. Mais un revirement se produisit durant lequel fut emprisonné Michel, le frère aîné de François, qui réussit à s'échapper de la forteresse de Pampelune pour rejoindre son frère Jean à Fontarabie, où avec d'autres officiers navarrais, ils tinrent en échec les forces de Castille jusqu'au 19 février 1524, jour de la capitulation navarraise. Le 29 avril 1524, les deux frères purent se rendre à Xavier, revoir les leurs. François, lui, avait 19 ans. Il avait terminé ses humanités. À sa petite enfance paisible succédait une enfance et une adolescence troublée par la disgrâce et la mort de son père, la guerre entre la Castille et la Navarre, l'emprisonnement de ses deux frères aînés, le démantèlement du château ancestral, la réduction du train de vie familial. Toutes épreuves qui forgèrent son caractère et mûrirent son esprit. Doña Maria, malgré sa peine, décida de l'envoyer à la célèbre université de Paris conquérir ses grades. François quitta Rabières début septembre 1525. Il ne devait plus revoir ses frères. Une autre vie l'attendait. Sa vie au château de Rabières dans sa Navarre natale lui avait servi de noviciat, combien formateur, avec ses valeurs de foi et d'amour familial, permettant de surmonter vaillamment deuil, guerre et revers. De quoi tremper un caractère et préparer un grand destin. Comme l'écrivait le docteur Navarro, Martin de Azpilicueta, oncle de sa mère, François était curieux d'apprendre et d'exceller en tout ce qui fait le gentilhomme accompli. Retenons pour nous le rôle structurant de sa famille et des valeurs de foi et d'amour qu'il y trouva et qui lui permirent à lui et aux siens de tenir bon durant les épreuves. Un tel trésor et un tel témoignage valent encore pour nous aujourd'hui. C'est déjà tout enfant que s'apprend la grandeur. C'est déjà tout enfant que se prépare un chrétien.
Saint-François Xavier, 1506-1552, Monseigneur Pierre Moller.
Je continue la présentation de François Xavier, ce grand apôtre missionnaire, dont la vie et la doctrine et les ardeurs missionnaires sont pour nous un stimulant. Les archives de la Compagnie de Jésus ont conservé une lettre confidence de François Xavier, écrite peu avant son départ de Lisbonne à son ami le père Simon Rodriguez. Vous souvenez-vous de cette nuit passée à l'hôpital de Rome quand je vous réveillais par mon cri répété « Davantage, davantage, masse, masse, davantage !» Comme vous me demandiez la raison de mon cri, je vous répondis de n'en pas faire cas. Sachez maintenant que je me voyais alors en de très grands labeurs et périls pour le service de Dieu notre Seigneur. Et cependant, sa grâce me soutenait et m'animait à tel point que je ne pouvais m'empêcher d'en demander davantage. J'espère que l'heure arrive où ce qui me fut montré d'avance se réalisera. L'appel du large et des plus lointains, l'appel des âmes et des peuples, l'appel du Seigneur mobilise tout entier ce jeune Navarrais au grand cœur, issu d'un milieu aristocratique protégé de Navarre. C'est de cela dont je voudrais m'entretenir avec vous. Suivons ensemble ce jeune noble Navarrais, étudiant très doué à Paris en 1525, professeur en 1530. Il a bénéficié peu à peu de l'influence de son nouvel ami Ignace de Loyola. Ignace de Loyola était un ancien officier né en Guipuscoa, blessé à l'âge de 30 ans au siège de Pampelune contre les Navarrais, converti au Seigneur pendant sa convalescence, parti à Paris, à l'université, pour faire ses études et devenir prêtre. C'est là qu'il rencontra au célèbre collège Sainte-Barbe deux étudiants bien plus jeunes que lui, François de Rabière, son quasi-compatriote, et Pierre Lefebvre, un savoyard, qui l'initièrent aux études. En retour, il les guida, lui l'aîné, sur les chemins de la vie spirituelle, malgré les résistances du premier et les sollicitations de la vie étudiante. Quid prodest homini, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il ruine sa propre vie, répétait-il au jeune maître François. Ce fier hidalgo, nourrissant des rêves de grandeur et regardant de haut Ignace, si mal accoutré. Peu à peu cependant, François rendit les armes et s'engagea à suivre Ignace, avec lequel un peu plus tard il suivit le mois des exercices spirituels d'où il revint changé. Désormais, avec cinq autres disciples d'Ignace, dont l'un, Pierre Lefebvre, était prêtre, ils vécurent en équipe et le 15 août 1534, à Notre-Dame de Montmartre, ils prononcèrent leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance au pape. Le 24 juin 1537, fête de Saint-Jean-Baptiste, après avoir rendu visite au pape Paul III à Rome et vécu une retraite spirituelle de 40 jours, ceux qui ne l'étaient pas furent ordonnés prêtres à Venise par le nonce Jérôme Verallo. Malgré leur désir de partir en pèlerinage à Jérusalem, impossible de trouver un bateau en partance pour l'Orient. Ce ne sera pas la dernière fois que François-Xavier sera contrecarré dans ses projets. Alors ils partirent à Rome pour réfléchir sur leur devenir et fonder la Compagnie de Jésus comme ordre religieux. Leur présence à Rome coïncidait avec la demande faite au pape par le roi Jean III du Portugal d'envoyer dans le sud de l'Inde quelques missionnaires. François fut désigné avec son ami Simon Rodriguez, qui ne pourra s'y rendre au dernier moment. Je vous propose maintenant de suivre à la trace ce hardi messager de Dieu durant les cinq voyages missionnaires qu'il entreprit de 1541 à 1552, soit pendant 11 ans, pour annoncer le Christ. Premier voyage, le 7 avril 1541, François-Xavier a 35 ans. Il s'embarque avec deux compagnons, nommés nonces par le pape pour les Indes portugaises, immense territoire, allant de la côte est de l'Afrique jusqu'aux îles du Japon. Le 6 mai 1542, il débarque à Goa, la capitale. De Lisbonne à Goa, 20 000 kilomètres, 13 mois de voyage, dont 7 en mer. C'est le début de 10 ans de vie missionnaire féconde et combien casse-cou, scandé maintenant par d'autres aventures. Deuxième voyage, en septembre 1542, il part pour les Comores vers un peuple baptisé 8 ans avant par des missionnaires mais laissé livrer à lui-même. Il sillonne l'Inde du sud au nord par Goa, c'est sa première expédition en Asie. Troisième voyage, La deuxième expédition en Indonésie, cette fois, en 1545, il s'embarque vers l'Asie de l'Est, vers Meliapur, puis Malacca, aborde à l'île d'Amboni, d'où il rayonne vers les îles Moluques, 15 000 km, dont 7 mois en mer. Son quatrième voyage le mène au Japon. En mai 1547, il revient à Goa. En mai 1549, il en repart pour sa dernière mission, celle du Japon. Il part de Malacca sur une jonque chinoise, arrive le 15 août à Kagoshima, d'où il se rend à Kyoto, la capitale. Il reste au Japon 2 ans, jusqu'en 1551. Après y avoir laissé quelques compagnons, il revient à Goa, puis retourne à Malacca, d'où il part pour la Chine, fin juillet 1552. 20 000 kilomètres, dont 10 mois en mer. Enfin, son dernier voyage, 15 000 kilomètres, le conduira devant la Chine et de là vers la maison du Père. Le 3 décembre 1552, il meurt dans l'îlot de Shenzhen, face à l'immense Chine, épuisé de fatigue. Seul près de lui l'assiste Antoine, un jeune Chinois converti. « Masse, masse, davantage, davantage !» s'écriait François-Xavier, beaucoup plus jeune dans son rêve. Ce messager du Christ, après tant de voyages missionnaires, avait été fidèle à sa devise jusqu'au bout, davantage. Que fut-il ? Il fut à la fois un pionnier et un organisateur, un religieux tout d'une pièce et un missionnaire capable de s'adapter à toute situation. Il fut surtout l'homme porté par une passion brûlante pour le Christ. Une peinture naïve reproduit l'histoire légende d'un crustacé rapportant à Xavier son crucifix tombé à la mer. Où qu'il partit, en effet, François-Xavier s'embarqua avec le Christ. Durant les 77 000 kilomètres qu'il fit avec lui pour lui pendant sa courte vie, vrai compagnon de Jésus. Grâce à lui, au Christ, François-Xavier accomplit des merveilles et put étendre au loin le règne de son divin passager. Puisse cette année missionnaire nous donner l'audace d'aller vers ceux qui ne partagent pas notre foi et de leur proposer la joie de croire et de rencontrer Jésus, le Sauveur du monde. C'est la raison pour laquelle, chers amis, j'ai fait le détour avec vous des voyages missionnaires de François-Xavier. À notre tour, soyons capables de prendre les initiatives nécessaires pour aller vers ceux qui attendent l'Évangile du Christ. Qu'est-ce donc qui fait courir ce géant de l'apostolat ? Qu'est-ce qui le motive ? Quelles sont les lignes directrices de sa doctrine spirituelle ? Pour la clarté, j'en dégagerai 5. La première, essentielle, récapitulative de tout le reste, tient en cette phrase que François-Xavier répétait à ses collaborateurs. Il faut aimer. Il faut aimer. Juste avant de partir de Malacca au Japon, en 1543, il confirme cette conviction. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, que peut-il savoir ? Et ceux qui ne désirent pas glorifier Dieu, faire connaître Jésus-Christ et sauver des âmes, que peuvent-ils appréhender ? Pour lui, être jésuite, c'est être compagnon de Jésus, c'est reproduire la vie des apôtres autour de lui. La deuxième ligne maîtresse de sa doctrine spirituelle, après l'amour pour le Christ, c'est l'humilité. Implorer Dieu pour nous, écrit-il de Mozambique à un religieux jésuite, car vous savez et connaissez quel vil métal nous sommes. Un vieux religieux espagnol de tempérament coléreux, en poste en Inde, à San Tomé de Meliapur, il ne craint pas d'écrire « Vous cédez toujours à votre naturel violent, corrigez-vous. Croyez bien que par l'humilité, on arrive à bout de tout. » En venant d'apprendre sa nomination de provincial des Indes par Ignace de Loyola, il écrit au jésuite Rodriguez dès le lendemain « Demandez à Dieu notre Seigneur qu'il me donne la grâce d'ouvrir le chemin aux autres, puisque moi je ne fais rien. No hago nada, je ne fais rien. le disciple du Christ authentique ne fait pas le malin devant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle François-Xavier pense n'en faire jamais assez pour son Seigneur. Avec la même fougue, il en appelle à la générosité des clercs et universitaires de la Sorbonne. Ah, s'ils gardaient devant les yeux qu'ils doivent rendre compte du talent reçu du père de famille, lequel le leur demandera. Chez François-Xavier, et si sa troisième ligne maîtresse, la pensée des fins dernières affleure toujours. Celui qui, pendant sa vie, écrit-il en 1540, ne se risque pas à mourir, ne possède pas le courage de se souvenir de Dieu à l'heure de sa mort. Fils d'un juriste conseiller financier du roi de Navarre, François Xavier se prépare toujours à rendre compte de sa gestion et des talents que Dieu lui a confiés, selon la parabole célèbre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Il sait que notre liberté nous est donnée pour travailler à la venue du royaume de Dieu et nous aurons à en rendre compte. C'est la troisième caractéristique de sa doctrine spirituelle. Une quatrième, bien dans la logique de la précédente, c'est le combat spirituel, le défi lancé à Satan, l'adversaire du genre humain. Comme saint Paul, François Xavier ne prend pas à la légère le mystère d'iniquité. Il reconnaît les manœuvres du malin dans les obstacles accumulés sur sa route pour nous faire retourner sur nos pas, dit-il. Dans sa longue lettre écrite du Japon au jeune jésuite de Goa, le 5 novembre 1549, François Xavier attire leur attention sur trois tentations qu'ils doivent surmonter. La peur, l'excès de confiance en soi et l'ignorance de leurs faiblesses et de leurs affections désordonnées. Il leur conseille alors d'y faire face par l'humilité, l'obéissance et le détachement. Enfin, pour François Xavier, la branche maîtresse sur laquelle la vie de l'apôtre trouve force et appui, c'est la confiance en Dieu. Confiance en Dieu dans la solitude d'abord. Ses biographes nous précisent que durant son séjour de 10 ans aux Indes, il ne reçut d'Ignace que 5 courriers, vu la distance et les lenteurs de la communication. La première lettre ne lui parvint qu'après 2 ans et 8 mois de silence. Alors seul, sans appui humain, il s'en remet dans la prière à la volonté de Dieu et décide, sous l'effet de la grâce, de quitter l'Inde pour Malacca, en Indonésie. Il écrira aux jésuites de Goa : « J'ai une telle foi en Dieu notre Seigneur, dont le seul amour me fait entreprendre ce voyage, que si cette année je ne trouvais aucun vaisseau de cette sorte, mais seulement un catamaran, je m'y embarquerai plein de confiance, en mettant toute mon espérance en Dieu. » Quand en 1546, il part vers les terribles îles du Mor en Indonésie et qui revient plus tard sain et sauf de ce pays où se pratiquait anthropophagie et empoisonnement, il écrira au père de Rome le 20 janvier 1548 « Je ne me rappelle pas avoir eu comme en ces îles des consolations spirituelles si grandes et si continuelles. Mieux vaudrait les appeler les îles de l'espoir en Dieu que les îles du Mor. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait déjà dans le même sens saint Paul. Cette confiance indomptable est son vrai ressort. Comme Dieu, notre Seigneur, a pouvoir sur tous, je ne crains personne sinon Dieu. Toutes les autres craintes, tous les périls et labeurs dont me parlent mes amis, je les tiens pour rien. Cette citation résume sa vie et sa doctrine. Pour terminer, faisons le point. Nous avons vu que l'amour du Seigneur, l'humilité, la pensée des fins dernières, le combat spirituel, la confiance inconditionnelle à Dieu structurent l'expérience spirituelle et la pensée de saint François Xavier. Toute cette odyssée fantastique va le conduire dans une paillote sur l'île de Shanxian face à la Chine où il va mourir seul, veillé par un jeune Chinois émigré ne parlant plus sa langue, alors que lui mourant retrouve sa langue basque pour s'en remettre à Dieu, un cierge à la main. Une tradition navarraise raconte que le 3 décembre 1552, le beau crucifix roman de l'entrée du château de Rabière se couvrit d'une fine sueur de sang. À des milliers de kilomètres, François-Xavier, agonisant, priait. Même si cette histoire appartient à la légende populaire, elle exprime bien l'amour passionné de François-Xavier pour le Christ missionnaire, embarqué au gré des vents et de l'esprit, vers les rendez-vous que ce Christ en mission, l'envoyé du Père, lui fixe toujours ailleurs dans le vaste monde.
Avant de retrouver Mgr Pierre Moller pour la suite de cette conférence consacrée à Saint François-Xavier, voici un chant basque en l'honneur du Saint Navarrais.
San Frances Giacuco, o to itsegi suguretsat. San Frances Giacuco, o to itsegi suguretsat. San Frances eskualdun semea, eskual herriko lorea, utzi duzulakotz mundua, ja benedikatua. San Frances Giacuco, o toitzegi suguretzat. San Frances Giacuco, o toitzegi suguretzat. Amo Dios jenkoarentzat, utzi ditut zubertzentzat, mundu untako atseginak, zure tzat hautatu penak. San Frances Giacuco, o toitzegi suguretzat. San Frances Giacuco, o toitzegi suguretzat.
Dégageons d'abord les ressorts de sa sainteté. Comme toujours dans sa vie et dans celle des saints, l'unique secret de la sainteté, c'est l'amour du disciple pour le Seigneur. Mais chez François-Xavier, cet amour s'approfondit à la vue du Seigneur outragé. François-Xavier éprouve le martyr du cœur devant les mauvais traitements infligés aux chrétiens de ces terres lointaines d'Asie. Voir continuellement les offenses faites aux chrétiens sans pouvoir y remédier, c'est une blessure que je porte en moi toujours, écrivait-il. La douleur est la même devant la scandaleuse attitude de certains officiers portugais, leurs exactions et leurs mauvais exemples. Rien ne pèse tant que de n'avoir pu davantage retenir ceux qui, vous le savez, offensent Dieu si cruellement, écrivait-il au roi du Portugal. Devant l'opposition farouche de certains bonzes, il voit en eux les instruments par lesquels prendra fin cette mort continuelle dans laquelle nous vivons. Dieu nous oblige à aimer le salut de notre prochain plus que nos vies corporelles. Quant à sa traversée hasardeuse vers le Japon, soumise aux caprices du patron et de son équipage, qui consulte souvent l'idole du bateau en jetant des sorts, il dit « Telle fut ma souffrance ». Nous trouver livrés au bon plaisir du démon et de ses serviteurs pour décider si nous arriverions au Japon ou non. Voilà un des ressorts de la sainteté de François Xavier, l'amour qu'il a pour le Christ outragé. Un autre ressort de sa sainteté, c'est sa confiance en la communion des saints, qu'il prie souvent, afin que tous ces bienheureux saints, dit-il, voyant une telle perdition des âmes, ne cessent d'intercéder pour le salut de tant d'images et de ressemblances de Dieu, et nous recommandent sans discontinuer à Dieu le Père éternel, dont tout bien naît et procède. Les saints du ciel, qui sont nos intercesseurs. Mais troisièmement, sa sainteté s'approfondit à travers une série de dures purifications qu'il oriente toutes vers l'essentiel, c'est-à-dire sa passion pour le Seigneur et son œuvre. Elles agissent en lui, ces purifications, comme un troisième ressort spirituel, alors qu'elles auraient pu le faire sombrer. D'abord, il y a l'expérience des dangers de sa vie aventureuse, qui le font souvent côtoyer la mort. Ainsi, lors d'une tempête du cap Comorin à Malacca, où le Seigneur lui donne une grâce de paix. « Il est en sa main, dit-il, de nous rendre forts dans les dangers acceptés pour son amour, rendant ainsi compte de son expérience mystique. » Puis il y a l'expérience progressive, qu'il peut de moins en moins compter sur l'aide humaine, vu son éloignement de Rome, certaines insuffisances de ses compagnons, ou l'ambiguïté de l'aide fournie par les officiers et fonctionnaires du roi du Portugal, souvent tyranniques et cupides. « Que le temporel soit ordonné au spirituel », recommande-t-il à ses religieux fixés en Inde. C'est encore la longue patience imposée à ce preux, non seulement par l'attente des vents favorables, mais encore et surtout par les disputes et les calculs mesquins des occupants portugais, des gouverneurs, bonzes et patrons d'équipages locaux qui freinent ses projets. « Demandez à Dieu, écrivait-il le 23 février 1544, à Mancias, un de ses collaborateurs assez limité, « demandez à Dieu qu'il vous donne beaucoup de patience pour agir avec ces gens. » 20 jours plus tard, le 14 mars, nouvelle lettre. « Ne vous laissez pas abattre, ne vous lassez pas, car vous faites plus de bien que vous ne le pensez. Et si vous ne réalisez pas tout ce que vous désirez faire, contentez-vous de ce que vous faites, puisque la faute n'est pas à vous. » C'est enfin, dernière purification, l'épreuve du réel. François Xavier a souvent rêvé d'un pays idéal qui accepterait aisément l'Évangile. Mais par de fréquentes déconvenues, il apprend le dépouillement. Quand il quitte l'Inde pour les Moluques et le Japon, il s'enfonce dans la solitude, affronte les tentations, et après un semblant de réussite dans son expédition vers la Chine, il connaît la mort dans un îlot solitaire à 46 ans. Grain de blé jeté à l'entrée de la Chine, commande profondément le jésuite Polanco, secrétaire d'Ignace de Loyola. François Xavier, comme le Christ crucifié, a pénétré dans un autre continent. S'il n'a pu entrer en Chine, il a exploré comme le Christ jusqu'à l'extrême, le désert de la foi, en gardant sa confiance en Dieu intacte. Dans son agonie, les prières les plus simples lui reviennent avec les mots basques de son enfance. « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Ô Rikal Yaona, ô Vierge Mère de Dieu, souvenez-vous de moi. Telle fut son ultime étape sur la terre et le secret de sa sainteté. Lui passionné du Christ au point de lui être configuré et d'inventer pour lui de nouvelles méthodes d'apostolat, dont nous citerons en terminant quelques-unes. d'abord sa disponibilité absolue. « Il faut être toujours en chemin, disait-il. Nous devons être en cette vie des pèlerins, prêts à nous rendre partout où nous pourrons servir davantage Dieu notre Seigneur. » Masse, davantage. Ensuite, son adaptation à toutes les situations. François-Xavier a le sens de l'organisation et du concret. Il demande d'apprendre la langue du pays, de faire prier avec ses mots. Il demande aussi de parler simplement, de manière à être compris. « Faites chanter le catéchisme, conseille-t-il. Dites des choses que le peuple comprenne, et non de celles où il n'entend rien. » Fréquentez les pécheurs, amenez-les à s'ouvrir à vous. Voilà les livres vivants que vous devez étudier. Il compose pour ses missionnaires des résumés catéchétiques, riches d'évocations bibliques et centrés sur la personne du Christ. C'est sa deuxième méthode d'apostolat. La troisième est la suivante. François-Xavier a le culte de l'amitié. Depuis ses années à la Sorbonne et sa vie de fraternité avec les premiers compagnons de Jésus à Montmartre, Venise et Rome. Sa pédagogie recommande d'aimer, de se faire accepter et aimer. « Soyez donc toujours affable et bénin », recommande-t-il. « Sachez excuser les faiblesses des gens avec beaucoup de patience. » Songeant que s'ils ne sont pas bons pour le moment, ils le seront un jour, et si vous n'arrivez pas à faire avec eux tout ce que vous désirez, contentez-vous de ce que vous pouvez. C'est ainsi que j'agis. Tâchez de toutes vos forces à vous faire aimer de ces gens, car étant aimé d'eux, vous ferez beaucoup, beaucoup plus de fruits qu'en étant détesté d'eux, écrit-il dans son instruction aux missionnaires de février 1548. Il conseille de demander service et pas seulement de rendre service pour gagner les cœurs, comme Jésus demandant de l'eau à la Samaritaine. Ce souci d'évangéliser le pousse aussi à s'adresser à la fois aux élites et aux humbles. La quatrième méthode apostolique qu'il utilise, à ceux qui tiennent les leviers de commande et aux déshérités, il s'adresse aux deux catégories. Ainsi, à Goa, le dimanche en 1541, en 1542, tenait-il à célébrer la messe chez les lépreux, hors de la ville. Enfin, François-Xavier est un appelant. En 1544, il s'adresse aux chrétiens d'Europe, aux jeunes universitaires et aux clercs. Il leur demande de venir pour avoir une vie plus consolée que celle qu'ils mènent. Oh, si les joies qu'un étudiant cherche dans l'intelligence de ce qu'il apprend, écrit-il, il les cherchait en faisant sentir au prochain ce qui lui est nécessaire pour connaître et servir Dieu, combien il serait plus consolé. Mais son appel ne s'adresse pas aux orgueilleux, aux peureux. La mission du Seigneur est le fait des humbles, et de ceux qui mettent leur force en Dieu. Voilà. Ainsi s'achèvent ces quatre entretiens sur François-Xavier, avec ce dernier regard sur les ressorts de sa sainteté et de son apostolat. Pour terminer, deux anecdotes significatives. Le maître des novices, le père Leynez, raconte qu'au temps où les religieux faisaient leur expériment dans les hôpitaux en Italie, François-Xavier s'éveillait parfois dans la nuit en disant « Jésus, je suis moulu. Savez-vous ce que je rêvais ? Je portais sur le dos un Indien et il pesait si lourd que je ne pouvais le transporter. » Deuxième anecdote, une nuit à l'hôpital de Rome, il réveilla son ami le père Rodriguez en répétant le mot « masse, davantage ». Il lui révéla un jour le sens de ce rêve peu avant son départ définitif de Lisbonne. « J'espère que l'heure arrive où ce qui me fut montré d'avance se réalisera. Je me voyais en de très grands labeurs pour le service de Dieu notre Seigneur, et pourtant sa grâce me soutenait. » La réalité dépassa son rêve. Tout au long de ses traversées, au cœur des tempêtes, l'ouragan de l'amour du Christ, en le dépouillant de tout, l'emporta plus loin qu'il ne pensait, pour qu'il en livre la joyeuse annonce aux peuples les plus lointains jusqu'aux confins du monde. Puissent les chrétiens de France être capables aujourd'hui d'une telle proposition de la foi et d'un tel amour pour le Christ en vue d'une nouvelle évangélisation là où ils sont.
Saint François-Xavier, apôtre et missionnaire, vous venez de suivre une conférence de Mgr Pierre Moller, conférence enregistrée en 2006 à l'occasion du 5e centenaire de la naissance de Saint François-Xavier, 1506-1552. Mgr Pierre Moller a publié en 2014 aux éditions Parole et Silence un livre intitulé « Saint François-Xavier ».